je vous propose de nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce qui a été dit il y a une semaine. Notre héritage en Adam. Le pécheur est un pécheur parce qu'il est né pécheur, non parce qu'il a commis des péchés. Notre héritage en Christ. Vous êtes par lui dans le Christ Jésus. 1 Corinthiens 1:30. Dieu lui-même nous a mis en Christ, et ce qu'il a fait à Christ, il l'a fait à la race entière. L'esclavage du péché est venu par notre naissance. La délivrance du péché vient par la mort. Et c'est précisément le moyen de délivrance auquel Dieu a pourvu en Christ. Je cite les paroles de Paul. « J'ai été crucifié avec Christ. » Galates 2:19. La voie de l'homme consiste à supprimer le péché en cherchant à le vaincre. La voie de Dieu consiste à mettre de côté le pécheur, nous-mêmes. Nous avons vu qu'il y avait 4 étapes dans les chapitres 6 à 8 des Romains, savoir se considérer comme. Nous avons vu la première partie la semaine dernière, nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui. S'offrir à Dieu et enfin marcher selon l'Esprit. Le premier pas, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6:6. Le chemin du progrès, se considérer comme, sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, vous donc aussi considérez-vous comme mort. Romains 6:6 et 11. À moins de savoir comme un fait que nous sommes morts avec Christ, plus nous essayerons de nous considérer comme tels, plus intense sera le conflit et plus certaine sera la défaite. En effet, ce n'est pas parce que je me considère comme mort que je le suis, mais c'est parce que je suis déjà mort, parce que je vois ce que Dieu a fait de moi en Christ, c'est pour cela que je me considère comme mort. Dieu nous demande de nous considérer comme mort, non pas pour que nous mourions en le faisant, mais parce que nous le sommes déjà en Christ. Il ne nous a jamais demandé de reconnaître une chose qui ne serait pas un fait déjà accompli. Donc aujourd'hui, nous poursuivons avec le défi de la foi, les tentations et les chutes. Les deux plus grandes réalités de l'histoire sont donc pour nous celles-ci. Tous nos péchés ont été effacés par le sang et nous avons été nous-mêmes mis de côté par la croix. Mais qu'en est-il maintenant du problème de la tentation? Quelle doit être notre attitude quand, après avoir vu et cru ces faits, nous voyons les anciens désirs ressurgir? Ou ce qui est pire, si nous retombons dans un péché récurrent? Est-ce que cela prouvera que toute la position dont nous avons parlé est fausse? Souvenons-nous que l'un des buts principaux du malin est toujours de nous faire douter des faits divins. Rappelons-nous la chute en Genèse 3. Après que nous aurons vu, par une révélation de l'Esprit de Dieu, que nous sommes véritablement morts avec Christ et que nous l'aurons reconnu, l'ennemi viendra avec ses insinuations. Il y a quelque chose qui remue intérieurement. Qu'est-ce là? Peux-tu appeler cela la mort? Lorsque cela arrivera, quelle sera notre réponse? C'est précisément ici qu'est le test, l'épreuve. Allons-nous croire aux faits tangibles du domaine naturel qui sont clairement devant nos yeux ou aux réalités invisibles du domaine spirituel que l'on ne peut ni toucher ni prouver par la science? Il nous faut ici veiller bien attentivement. Il est important de nous rappeler ce qui est établi dans la parole de Dieu et dont la foi doit se saisir, et ce qui ne s'y trouve pas. Comment Dieu déclare-t-il que la délivrance est accomplie? Il ne nous est pas dit que le principe du péché en nous est déraciné ou enlevé. Si nous nous appuyons sur cela, nous serions sur une base entièrement fausse, dans la fausse position de l'homme dont nous avons déjà parlé, qui malgré les 100 euros qu'il a dans sa poche, essaye d'emporter 120 sur son livre de compte. Non, le péché n'est pas déraciné. Il est bien là, et si l'occasion s'en présente, il triomphera de nous et nous fera de nouveau commettre des péchés, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi nous aurons toujours besoin d'avoir recours au sang précieux. Mais il y a une différence entre le problème du péché et celui des péchés. Nous savons que Dieu agit de façon directe à l'égard des péchés commis. Il en efface le souvenir par le moyen du sang. Mais lorsqu'il s'agit du principe du péché, de la délivrance de son pouvoir, nous voyons qu'il le fait de manière indirecte. Ce n'est pas le péché qu'il met de côté, mais le pécheur. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est pourquoi le corps, qui avait été un instrument du péché, est désormais hors d'emploi. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que ce corps de péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Romains 6, 6. Le péché, l'ancien maître, est toujours là, mais c'est l'esclave qui le servait qui a été mis à mort et est ainsi hors de son atteinte et ses membres sont hors d'emploi. La main du joueur est hors d'emploi. La langue du blasphémateur est hors d'emploi et ses membres sont désormais libres et employés par Dieu comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Nous pouvons donc dire que la délivrance du péché est une pensée plus scripturaire que la victoire sur le péché. Les expressions « libéré du péché » et « mort pour le péché » dans Romains 6, 7 et 6, 11 impliquent la délivrance d'un pouvoir encore très présent et très réel, et non de quelque chose qui n'existerait plus. Le péché est toujours là, mais nous connaissons la délivrance de son pouvoir dans une mesure qui s'accroît de jour en jour. Cette délivrance est si réelle que Jean a pu écrire hardiment « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, il ne peut pécher. » 1 Jean 3,9. Cette déclaration peut cependant nous induire en erreur si nous la comprenons mal. Par elle, Jean ne nous dit pas que le péché n'existe plus pour nous et que nous ne commettrons plus de péché. Il nous dit que le péché n'est pas dans la nature de ce qui est né de Dieu. La vie de Christ a été plantée en nous par la nouvelle naissance, et sa nature est de ne pas commettre de péché. Mais il y a une grande différence entre la nature et l'histoire d'une chose. Il y a une grande différence entre la nature de la vie qui est en nous et notre propre histoire. Pour illustrer cette pensée, bien que l'exemple soit inadéquat, nous pourrions dire que le bois ne peut pas s'enfoncer dans l'eau, parce que ce serait contre sa nature. Mais il lui arrivera, dans son histoire, de le faire si une main le retient sous l'eau. L'histoire est un fait. L'histoire est une réalité, de même que les péchés dans notre histoire sont des faits historiques. Mais la nature est aussi un fait, et la nouvelle nature que nous avons reçue en Christ est également un fait. Ce qui est en Christ ne peut pas pécher. Ce qui est en Adam peut pécher et péchera toutes les fois que Satan aura l'occasion d'exercer son pouvoir. Il s'agit donc pour nous de choisir les faits sur lesquels nous voulons compter et par lesquels nous voulons vivre. Ou bien les réalités tangibles de notre expérience quotidienne, ou bien le fait plus puissant que nous sommes maintenant en Christ. La puissance de sa résurrection est de notre côté et toute la force de Dieu est à l'œuvre dans notre salut. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant, Romains 1, 16. Mais tout dépend désormais dans quelle mesure ce qui est vrai de l'œuvre accomplie par Dieu devient une réalité dans notre histoire. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Je pense que nous savons tous que Hébreux 11, 1 est la seule définition de la foi que nous ayons dans le Nouveau Testament et en vérité dans toutes les Écritures. Il est important que nous comprenions réellement cette définition. Le terme grec, qui est traduit par « ferme assurance », renferme le sens d'une action. Ainsi, le mot qui paraît bien rendre le sens de l'original est « l'appropriation des choses que l'on espère ». En effet, un des sens de ce terme en grec est « titre de propriété ». C'est en fait nous approprier et rendre réelles dans notre expérience les choses que nous espérons. Comment nous approprions-nous quelque chose? Nous le faisons chaque jour. Nous ne pouvons pas vivre dans le monde sans le faire. Pour m'approprier un objet, il faut que j'aie un pouvoir ou une faculté qui le rende réel pour moi. Prenons une simple illustration. Par le moyen de nos sens, nous pouvons nous saisir de certaines choses qui sont dans le domaine de la nature et les faire entrer dans notre conscience. La vue et l'ouïe, par exemple, sont deux de nos facultés qui nous permettent de nous approprier le monde de la lumière et des sons. Nous avons des couleurs, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, et ces couleurs sont des choses réelles. Mais si je ferme les yeux, elles ne sont plus réelles, elles ne sont plus rien pour moi. Avec la faculté de la vue, je possède le pouvoir de m'approprier la réalité. Et par ce pouvoir, le jaune devient jaune pour moi. Ce n'est pas seulement que la couleur existe, mais j'ai le pouvoir de me l'approprier. J'ai le pouvoir de rendre cette couleur vraie pour moi et d'en avoir réellement conscience. C'est ce que signifie l'appropriation. Si j'étais aveugle, je ne pourrais distinguer les couleurs, et si j'étais sourd, je ne pourrais jouir de la musique. Et cependant, la musique et les couleurs sont bien des choses réelles, et leur réalité n'est pas affectée par ma capacité ou mon incapacité à les apprécier. Or, nous considérons ici des choses qui, bien qu'invisibles, sont éternelles et par conséquent réelles. Nous ne pouvons évidemment pas nous approprier les choses divines par aucun de nos sens naturels, mais il est une faculté qui peut s'approprier les choses que l'on espère, les choses de Christ, et c'est la foi. Les choses qui sont réelles deviennent par la foi réelles dans mon expérience. La foi me rend réelles les choses de Christ. Des milliers de personnes lisent Romains 6:6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pour la foi, cela est vrai. Mais pour le doute, ou pour une simple adhésion intellectuelle, sans révélation spirituelle, ce n'est pas vrai. Souvenons-nous encore que nous parlons ici non pas de promesses, mais de faits. Les promesses de Dieu nous sont révélées par son esprit pour que nous puissions nous en saisir. Mais les faits sont des faits et restent des faits, que nous y croyons ou non. Si nous ne croyons pas aux faits de la croix, ils n'en demeurent pas moins vrais, mais ils n'ont point de valeur pour nous. Ce n'est pas la foi qui rend ces choses réelles, mais la foi peut se les approprier et les rendre réelles pour nous, dans notre expérience. Il nous faut considérer comme un mensonge du diable tout ce qui contredit la vérité de la parole de Dieu, parce que si elle n'est pas un fait réel pour nos sens, Dieu a établi une réalité plus grande devant laquelle tout finira par s'incliner. En ce qui concerne le fait de la croix, il ne peut y avoir aucun doute. Nous devons croire Dieu, si convaincant que puissent paraître les arguments de Satan. Un menteur habile ne ment pas seulement en parole, mais aussi par ses gestes et ses actes. Il peut aussi facilement faire passer une fausse pièce que dire un mensonge. Le diable est donc un menteur habile, et nous ne devons pas nous attendre à ce que dans ses mensonges, il se limite à des mots. Il aura recours à des signes, à des expériences, à des sentiments trompeurs dans les efforts qu'il fait pour ébranler notre foi en la parole de Dieu. Comprenons bien que nous ne contestons pas la réalité de la chair. Nous aurons en effet beaucoup à dire à ce sujet lors de nos méditations. Mais il s'agit ici de ce qui peut nous faire sortir de notre position en Christ, de ce qui nous a été révélé. Dès que nous avons accepté notre mort avec Christ comme un fait accompli, Satan fera tout pour nous prouver de façon convaincante, par l'évidence de notre expérience journalière, que nous ne sommes pas morts du tout, mais bien vivants. Il nous faut donc choisir. Allons-nous croire au mensonge de Satan ou à la vérité de Dieu? Nous laisserons-nous gouverner par les apparences ou par ce que Dieu a dit? Ainsi, que je le sente ou non, je suis mort avec Christ. Comment puis-je en être sûr? Parce que Christ est mort et que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. 2 Corinthiens 5,14. Que mon expérience le prouve ou qu'elle semble prouver le contraire, le fait demeure inchangé. Aussi longtemps que je m'appuie sur ce fait, Satan ne peut prévaloir contre moi. Souvenons-nous que ses assauts sont toujours dirigés contre notre assurance. S'il peut réussir à nous faire douter de la parole de Dieu, il a atteint son but et nous tient en son pouvoir. Mais si nous restons inébranlables dans l'assurance des faits établis par Dieu, convaincus qu'il ne peut trahir son œuvre et sa parole, peu importe alors les tactiques adoptées par Satan. C'est par la foi que nous marchons et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Nous connaissons sans doute l'expérience de ces trois personnages, fait, foi et expérience qui marchent ensemble sur le haut d'un mur. Fait avance résolument, sans se détourner ni à droite ni à gauche et sans regarder en arrière. Foi le suit et tout va bien tant qu'elle garde les yeux fixés sur Fait. Mais dès qu'elle se préoccupe d'expérience, qu'elle se retourne pour voir comment celle-ci avance, elle perd l'équilibre, tombe et entraîne dans sa chute la pauvre vieille expérience. Toute tentation consiste d'abord à regarder en soi-même, à détourner ses yeux du Seigneur et à considérer les apparences. La foi rencontre toujours une montagne d'évidence qui semble contredire la parole de Dieu, une montagne de contradictions apparentes, soit dans le domaine des faits tangibles, des erreurs ou des fautes commises, soit dans le domaine des sentiments et de l'imagination. Et c'est ou bien la foi ou bien la montagne qui doit céder. Elles ne peuvent subsister ensemble. Ce qui est triste, c'est que très souvent la montagne demeure et la foi s'enfuit. Cela ne doit pas être. Si nous avons recours à nos sens pour découvrir la vérité, nous verrons que les mensonges de Satan sont assez souvent en accord avec notre expérience. Mais si nous refusons de nous laisser lier par tout ce qui contredit la parole de Dieu, et si nous maintenons une attitude de foi en lui seul, nous trouverons alors que les mensonges de Satan disparaissent et que notre expérience entre progressivement en harmonie avec cette parole. Pour arriver à ce résultat, il faut que nous nous occupions de Christ, car cela signifie qu'il devient de plus en plus réel pour nous dans les questions pratiques. Dans une certaine situation, nous le voyons comme la justice réelle, la sainteté réelle, la vie de résurrection réelle pour nous. Ce que nous voyons en lui de façon objective agit maintenant en nous de façon subjective mais réelle afin qu'il se manifeste en nous dans cette situation. C'est ce que Paul exprime par les paroles qu'il écrit aux Galates. « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates 4,19. La foi s'approprie les faits de Dieu et la foi s'approprie toujours les faits éternels, ce qui est éternellement vrai. Demeurez en lui. Bien que nous nous soyons longuement arrêtés sur ce sujet, il y a encore une chose qui pourra nous aider à le voir plus clairement. Les Écritures déclarent que nous sommes morts en Christ, mais elles ne disent nulle part que nous soyons morts en nous-mêmes. Nous cherchons en vain la mort en nous-mêmes. C'est précisément là que nous ne la trouverons pas. Nous sommes morts, non pas en nous-mêmes, mais en Christ. Nous avons été crucifiés avec lui parce que nous étions en lui. Nous connaissons bien les paroles du Seigneur Jésus. « Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. » Jean 15, 4. Méditons-les un instant. Elle nous rappelle premièrement, et encore une fois, que nous n'avons pas à lutter pour entrer en Christ. Il ne nous est pas demandé d'entrer en Christ, car nous y sommes. Mais il nous est dit de rester là où nous avons été mis. C'est un acte de Dieu lui-même qui nous a mis en Christ et nous devons demeurer en lui. Mais ensuite, ce verset pose pour nous un principe divin. C'est que Dieu a accompli l'œuvre en Christ et non pas en nous individuellement. La mort et la résurrection du Fils de Dieu, qui nous englobe tous, ont été accomplis pleinement et définitivement en dehors de nous. C'est l'histoire de Christ qui doit devenir l'expérience du chrétien. Et nous n'avons point d'expérience spirituelle en dehors de lui. Les Écritures nous disent que nous avons été crucifiés avec lui, que nous avons été vivifiés, ressuscités, assis par Dieu dans les lieux célestes en lui. Romains 6, 6, Éphésiens 2, 5, Colossiens 2, 10. C'est une œuvre qui a déjà été accomplie en union avec lui. Nous voyons dans les Écritures qu'aucune expérience n'existe comme telle. Ce que Dieu a fait dans son dessein d'amour, c'est de nous englober en Christ. Ce que Dieu a fait à Christ, il l'a fait avec le chrétien. Ce qu'il a fait à la tête, il l'a fait à tous les membres. C'est donc une erreur de penser que nous pouvons expérimenter par nous-mêmes quelque chose de la vie spirituelle en dehors de Christ. Dieu ne désire pas nous voir acquérir quelque chose d'exclusivement personnel dans notre expérience. Il ne fera rien dans ce sens, ni pour vous, ni pour moi. Toute l'expérience spirituelle du chrétien est déjà vraie en Christ. Elle a déjà été vécue par Christ. Ce que nous appelons notre expérience n'est que notre entrée dans son histoire et dans son expérience. Il serait étrange que l'un des sarments d'un cep essaye de porter des raisins rosés, tandis que l'autre essaierait de porter des raisins blancs, et un autre encore des raisins noirs, chaque sarment essayant de produire du fruit par lui-même sans rapport avec le cep. Cela est impossible, inconcevable. La nature des sarments est déterminée par le cep. Et cependant, certains chrétiens recherchent des expériences en tant qu'expérience. Ils pensent à la crucifixion comme à une chose, à la résurrection comme à une chose, à l'ascension comme à une chose, sans jamais se rendre compte que tout cela est lié à une personne. Non, c'est seulement lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir sa personne que nous pouvons avoir une véritable expérience. Toute expérience spirituelle véritable signifie que nous avons découvert un certain fait en Christ et que nous y sommes entrés. Tout ce qui ne serait pas de lui dans ce sens serait une expérience qui s'évaporerait très vite. J'ai découvert cela en Christ, alors que le Seigneur soit loué. C'est à moi, je le possède Seigneur, parce que c'est en toi. Que c'est grand de connaître les réalités de Christ comme le fondement de notre expérience. Ainsi, le principe fondamental sur lequel Dieu nous conduit dans notre expérience ne consiste pas à nous donner quelque chose, il ne consiste pas à nous faire passer par certains chemins pour mettre en nous comme résultat quelque chose que nous pourrions appeler notre expérience. Dieu n'accomplit pas en nous une œuvre qui pourrait permettre de dire « Je suis mort avec Christ en mars dernier » ou « Je suis ressuscité des morts le 1er janvier » ni « Mercredi dernier, j'ai demandé une expérience précise et je l'ai eue ». Non, ce n'est pas cela. Je ne recherche pas les expériences en elles-mêmes parce que nous sommes dans le temps de la grâce. La notion du temps ne doit pas gouverner notre pensée à ce sujet. Mais diront quelques-uns, qu'en est-il de ces crises que plusieurs d'entre nous avons traversées? C'est vrai, certains parmi nous sont passés par de véritables crises dans leur vie. George Muller, par exemple, a pu dire en se courbant jusqu'à terre « Il y a un jour où George est mort ». Que signifie cela? Nous ne mettons pas en doute la réalité des expériences spirituelles que nous traversons ni l'importance des crises par lesquelles Dieu nous conduit dans notre marche avec lui. Nous avons déjà souligné la nécessité pour nous d'être bien précis au sujet des crises que nous traversons dans notre vie. Mais le point sur lequel nous nous arrêtons ici, c'est que Dieu ne nous donne pas des expériences simplement individuelles. Tout ce que nous expérimentons n'est qu'une entrée dans ce que Dieu a déjà accompli. C'est la réalisation dans le temps des choses éternelles. L'histoire de Christ devient notre expérience et notre histoire spirituelle. Nous n'avons pas une histoire séparée de la sienne. Toute l'œuvre qui nous concerne n'est pas faite ici en nous, mais en Christ. Il ne sépare pas l'œuvre faite dans les individus de celle qu'il a accomplie sur la croix. La vie éternelle, elle-même, ne nous est pas donnée isolément. La vie est dans le Fils, et celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5,12. Dieu a tout accompli en son Fils, et il nous a mis en lui. Nous sommes incorporés en Christ. Maintenant, le point important de tout cela, c'est la valeur pratique, très réelle, de l'attitude de foi qui dit « Dieu m'a mis en Christ, c'est pourquoi tout ce qui est vrai de lui est vrai de moi. Je veux demeurer en lui. » Satan essaye sans cesse de nous faire sortir de notre position en Christ, de nous maintenir en dehors de lui, de nous convaincre que nous sommes sortis et par des sensations, des tentations, des fautes, des souffrances, des épreuves, de nous faire sentir cruellement que nous ne sommes pas en Christ. Notre première pensée est que si nous étions en Christ, nous ne serions pas dans cet état de faiblesse et que par conséquent, jugeant d'après nos sentiments, nous ne sommes pas en lui et nous nous mettons à prier « Seigneur, mets-moi en Christ ». Non. Dieu nous demande de demeurer en Christ et c'est là le chemin de la délivrance. Pourquoi? Parce que cela donne à Dieu la possibilité de prendre en main notre vie et d'accomplir son œuvre en nous. Cela rend possible l'action de sa puissance divine, la puissance de résurrection de Romains 6,4 9 et 10, afin que les réalités qui sont en Christ deviennent progressivement les réalités de notre expérience quotidienne, et que là où auparavant le péché a régné, Romains 5, 21, nous fassions désormais la joyeuse découverte que nous sommes réellement plus asservis au péché, Romains 6, 6. Lorsque nous nous appuyons fermement sur la base de ce qu'est Christ, nous trouvons que tout ce qui est vrai de lui devient vrai en nous, dans notre expérience. Si au contraire, nous revenons sur la base de ce que nous sommes en nous-mêmes, nous verrons que ce qui est vrai de notre vieille nature reste vrai dans notre expérience. Si nous restons là, en Christ, nous avons tout. Si nous revenons ici, en nous-mêmes, nous n'avons rien. Nous allons si souvent à la mauvaise place pour trouver la mort de notre moi. Elle est en Christ. Nous n'avons qu'à regarder en nous pour trouver que nous sommes bien vivants pour le péché. Mais lorsque nous fixons nos regards au-delà, sur le Seigneur, Dieu veille à ce que la mort agisse en nous, afin que la vie nouvelle soit aussi nôtre. Nous sommes vivants pour Dieu. Romains 6, 11. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Cette parole renferme deux choses. Un commandement accompagné d'une promesse. Cela signifie qu'il y a dans l'œuvre de Dieu un aspect objectif et un aspect subjectif, et que l'aspect subjectif dépend de l'objectif. Le « moi, je demeurerai en vous » est la conséquence du « demeurer en moi ». Il nous faut prendre garde à ne pas trop nous préoccuper de l'aspect subjectif et nous replier ainsi sur nous-mêmes. Il nous faut nous attacher à l'aspect objectif, « demeurer en moi », et laisser Dieu s'occuper du subjectif, et c'est ce qu'il a commencé de faire. Nous pouvons comparer cela à la lumière électrique. Nous sommes dans une pièce et le jour baisse. Nous aimerions avoir de la lumière afin de pouvoir lire. Il y a une lampe dans cette pièce. Que ferons-nous? Regarderons-nous fixement cette lampe pour que la lumière paraisse? Prendrons-nous un chiffon pour nettoyer l'ampoule? Non. Nous nous lèverons, nous irons de l'autre côté de la pièce où se trouve l'interrupteur et nous donnerons le courant. Notre attention se porte sur la source d'énergie. Et lorsque nous avons fait le nécessaire, la lumière brille dans notre pièce. Ainsi, dans notre marche avec le Seigneur, notre attention doit être fixée sur le Christ. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Tel est l'ordre divin. La foi dans les faits objectifs rend ces faits subjectivement vrais. Comme l'exprime l'apôtre Paul, nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le même principe reste vrai en ce qui concerne le fruit de notre vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Nous n'avons pas à essayer de produire du fruit, ni à nous concentrer sur le fruit produit. Ce que nous avons à faire, c'est de tourner nos regards vers lui. Et lorsque nous le faisons, il est fidèle pour accomplir sa parole en nous. Comment demeurer en lui? C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,30. C'était l'œuvre de Dieu de nous mettre là, et il l'a faite. Maintenant, restons là, demeurons là, ne revenons pas sur notre propre terrain, ne regardons jamais à nous-mêmes comme si nous n'étions pas en Christ. Regardons à Christ avec l'assurance que nous sommes en lui et demeurons en lui. Reposons-nous sur le fait que Dieu nous a mis dans son Fils et avançons dans la confiance qu'il accomplira son œuvre en nous. C'est à lui de réaliser la glorieuse promesse que le péché ne dominera point sur nous. Romains 6, 14. Je vous propose de revenir sur les différents points que nous avons vus. Si nous ne croyons pas au fait de la croix, il n'en demeure pas moins vrai, mais ils n'ont point de valeur pour nous. Ce n'est pas la foi qui rend ces choses réelles, mais la foi peut se les approprier et les rendre réelles pour nous dans notre expérience. En ce qui concerne le fait de la croix, il ne peut y avoir aucun doute. Nous devons croire Dieu si convaincant que puissent paraître les arguments de Satan. Toute tentation consiste d'abord à regarder en soi-même, à détourner ses yeux du Seigneur et à considérer les apparences. Ce que nous appelons notre expérience n'est que notre entrée dans son histoire et dans son expérience. Lorsque nous nous appuyons fermement sur la base de ce qu'est Christ, nous trouvons que tout ce qui est vrai de lui devient vrai en nous, dans notre expérience. Si au contraire, nous revenons sur la base de ce que nous sommes en nous-mêmes, nous verrons que ce qui est vrai de notre vieille nature reste vrai dans notre expérience. Reposons-nous sur le fait que Dieu nous a mis dans son Fils et avançons dans la confiance qu'il accomplira son œuvre en nous. C'est à lui de réaliser la glorieuse promesse que le péché ne dominera point sur nous.